Bon, mesdames, messieurs, nous allons commencer l'avant-dernière session du colloque, qui n'est pas la moins risquée, puisqu'elle traite des nouvelles organisations et du nouveau management. Je vous présente vos interlocuteurs à venir dans l'heure qui suit. Donc, Madame Morissette Feuillas, qui est directrice du développement de la communauté managériale du groupe La Poste. À sa gauche, M. Jean Weymar, qui est président-directeur général de l'entreprise Demos, qui est la deuxième entreprise de formation conseil en France. À ma droite, M. Bartoli, qui, si je ne m'abuse, enseigne à l'université Pierre Mendès France à Grenoble. Et M. Philippe Lorineau, qui est professeur à l'ESSEC. Et d'après mes intuitions, le titre de la séance sera à la mesure du contenu, avec quelques interventions intempestives et quelques réactions qui ne le seront pas moins. En tout cas, je l'espère. Pour ma part, je suis directeur du conseil dans l'entreprise Demos et j'anime l'Institut Demos qui fait le lien entre les préoccupations entrepreneuriales et l'avancée des recherches scientifiques. Et je vais de ce pas vous entretenir du premier brûlot qui s'intitule « Le manager fonctionnel ». Donc je vais vous entretenir d'un animal socio-professionnel qui n'existe pas, qui est au mieux un idéal type et au pire une fiction mensongère. Cependant, cet animal est au centre de toutes les mutations que l'entreprise contemporaine connaît. Comme c'est un sujet vaste, je me contenterai de quelques traits sommaires, mais représentatifs du sujet. Donc la finalité de cet animal est, on va dire, de coordonner tout ce qui peut l'être au sein d'une entreprise, des métiers, des activités, des expertises, des compétences, donc son action est une action de coordonnateur tous azimuts. Le petit problème auquel se heurte cet animal non encore advenu est qu'il doit exécuter toutes ses tâches sans se référer au pouvoir dans son exercice le plus élémentaire et sans user de quelque coercition que ce soit. C'est pour ça que je vous ai prévenu qu'il n'existait pas encore sous nos latitudes. Son rapport est un rapport qui neutralise le pouvoir et qui développe des relations dites transversales ou fonctionnelles. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de faire plusieurs choses. Donc, les liens fonctionnels, on va en parler. Il s'agit également pour lui de construire des interfaces de toute nature, électronique, documentaire, physique. Il s'agit également pour lui de fédérer les gens qui travaillent autour de concepts et de termes sur lesquels ils s'entendent, ce qui n'est pas une mince affaire. Et cette fédération a un nom qui est coutumier pour les philosophes et nouveau pour les acteurs d'entreprise. C'est le nom d'ontologie. Donc, il crée des ontologies, c'est-à-dire des accords conceptuels et terminologiques sur les activités et métiers exercés. Par ailleurs, et ça sera la minute habermasienne, il crée des règles d'argumentation et de discussion qui soient un peu près respectueuses des modalités de communication et des identités respectives. Et enfin, Il fait valoir des modalités coopératives dans son management. Donc il s'agit, comme je vous l'ai énoncé, soit d'un saint, soit d'un animal à venir, puisqu'il va faire tout ça sans exercer la moindre pression hiérarchique sur ses contemporains au travail. Donc si l'on prend les choses par l'endroit, il clarifie des liens fonctionnels. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il est capable d'objectiver des rapports de travail entre les gens à partir de leurs différences de compétences, d'expertise, et que, à travers les liens et les relations qu'ils tissent, ils forment des communautés professionnelles, des réseaux professionnels, des collaborations professionnelles qui n'existaient pas dans les métiers initiaux ou qui n'existaient pas dans l'organigramme initial de l'entreprise tel qu'il est décrit à l'origine. Donc, il favorise le transversal et il fait valoir la complémentarité permanente des contributions, des expertises diverses, et c'est particulièrement vrai dans tout ce qu'on appelle en entreprise la culture et le mode projet. Donc c'est le roi du mode projet, notre manager fonctionnel. Donc il doit faire ça dans un premier temps. Après, s'il l'a bien fait, sa deuxième tâche sisyphienne, c'est de créer des interfaces. Alors, ça peut sembler simple de créer des interfaces, d'organiser des réunions, des documents, sauf que maintenant, il est accablé par l'ensemble des technologies collaboratives qui s'offrent à lui, technologies dont la variété, la puissance de simulation et la puissance d'usage vont croissant et qui l'obligent à faire des choix et à faire des paris sur les plateformes virtuelles qu'il va utiliser, les types de forums qu'il va mettre en place, les types de plateaux de travail qu'il peut organiser. Donc la création des interfaces est devenue pour lui quelque chose de très complexe, puisqu'il doit alterner de façon intelligente, pour les grands projets ou les affaires, des interfaces de nature très différentes, aussi bien physiques qu'électroniques ou documentaires. Donc ce n'est pas rien dans son travail que de créer des interfaces intelligentes et intelligibles pour les différents acteurs dont il a la charge. Enfin, dont il n'a pas la charge, dont il a la responsabilité de les faire travailler ensemble. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il crée des ontologies. Ça veut dire que dans l'entreprise, il combat le langage corporatiste, le jargon de l'expert, et il fait en sorte que dans toute forme de travail un peu développée, il y ait toujours un accord minimal entre les gens qui travaillent, et c'est particulièrement vrai pour les coopérations internationales. Il crée un accord donc de termes et de concepts qui doivent être adoptés par les acteurs concernés. Alors, à l'international, ça se fait dans un jargon pseudo-anglais où il y a une cinquantaine de termes, notamment pour les projets, où les gens doivent s'accorder s'ils veulent travailler correctement et avec efficacité. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus compliqué et il faut que cette ontologie soit multilingue, et qu'elle traduise des processus de coopération très complexes. Donc, il clarifie des liens, ensuite, il fabrique des interfaces et il crée des ontologies. Vous voyez qu'il approche doucement, mais sûrement, de la sainteté. Parce que pour faire ça, il n'a jamais élevé la voix, il n'a jamais révélé sa puissance, il n'a fait preuve d'aucune coercition sur ses contemporains. Le tout s'est fait dans une négociation pacifiée et dans des dialogues de bon aloi et dans des comportements ouverts et accueillants. Donc si vous en connaissez un, vous serez créateur d'une nouvelle espèce et vous en serez remercié. Ensuite, nous arrivons dans ce qu'on appelle l'univers habermasien de l'entreprise. L'univers habermasien consiste à dire que pour travailler correctement ensemble, il faut au moins se respecter dans toutes les discussions et confrontations que l'on a les uns avec les autres. Et donc, il va instaurer des règles et il va instaurer des principes et des règles qui vont permettre ça. Donc, il va créer des conditions, évidemment. Il ne va pas faire se rencontrer les gens hors de contexte et puis hors d'une reconnaissance des ignorances et des connaissances respectives des acteurs qu'il convie à travailler ensemble. Il va instaurer des règles avec des principes que certains d'entre vous connaissent et que je résume de façon sommaire. Tout acteur professionnel a le droit de développer une argumentation sans être censuré par sa hiérarchie ou par des normes qui lui interdiraient d'aller jusqu'au bout de ses arguments. Tout acteur professionnel est sincère, au moins sur le sujet de la discussion ou du débat, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de stratégie individuelle, ça veut dire que dans le temps du débat et de la confrontation, on lui accorde la sincérité. Et tout acteur qui argumente, on lui accorde le fait qu'il défend de son point de vue une certaine vérité. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué, cette affaire. Il essaye de faire en sorte que les règles de délibération professionnelle aient une effectivité. Donc, quand il a fait tout ça, donc déjà les quatre points que l'on a évoqués, il lui arrive de penser à la synthèse de tout cela, c'est-à-dire au management qu'il est censé développer tout au long de ces quatre tâches, on peut dire prométhéennes, qui consistent donc à mettre les acteurs en position de coopération forte avec un langage clarifié, dans un respect mutuel et avec des règles qu'ils comprennent à peu près. Donc son management, on peut le caractériser de la façon suivante. Il va créer une dynamique collective, donc sans partialité, d'où mon propos sur la sainteté. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas partial et qui ne pratique aucune oppression. Il prend en compte toutes les argumentations et il clarifie toujours les modes de décision et de collaboration au sein des réseaux et des communautés dont il s'occupe. Ce n'est pas tout. Son management est aussi très délégatif. Il est très porté sur la fluidité des échanges de toute nature. Comme je vous l'ai dit, il développe de façon très accomplie les modes de collaboration, mais en plus, ne reculant devant aucun sacrifice, il va créer des événements fédérateurs qui vont permettre aux acteurs des projets, des affaires, de s'identifier, de se valoriser et de fonder une certaine mémoire de ce qu'ils ont accompli ensemble. Donc à partir de tous ces traits, vous pourrez facilement convenir que ce type d'acteur est peu répandu dans votre entourage. Alors pourquoi l'a-t-on institué même sur un mode fictionnel ? Eh bien, on l'a institué parce que ce type d'acteur synthétise les grandes mutations organisationnelles de l'entreprise. Un décloisonnement des métiers, une apparition de ce qu'on appelle les communautés professionnelles, qui sont des réseaux socio-professionnels infiniment plus larges que ceux qui exercent au sein des métiers traditionnels. Une apparition de plus en plus grande et une affirmation de plus en plus forte de ce qu'on appelle le mode de travail en projet, qui, comme son nom l'indique, réunit systématiquement des expertises, mais aussi des managements, des pouvoirs, des habitudes, des coutumes qui viennent des quatre coins de l'entreprise quand ce n'est pas des quatre coins d'un secteur entier d'activité. Et donc pour cet ensemble de raisons et pour d'autres qui sont probablement moins nobles, il est apparu comme étant un rôle tout à fait complémentaire du manager traditionnel qui oriente les gens en fonction du pouvoir qu'il détient. Et les raisons moins nobles sont les suivantes. C'est-à-dire que, comme cela a été indiqué lors de toutes ces journées, le travail étant de plus en plus stressant, contraignant, obligeant les gens à une gestion du temps de plus en plus aiguë, avec une instabilité d'environnement qui a été rappelée à maintes reprises, il fallait concevoir et inventer un rôle qu'on peut appeler stabilisateur et pacificateur des stress et des tensions contemporaines dues aux formes de travail dont on vous a parlé lors de ces deux jours et demi. Et donc l'entreprise, sans aucun complot initial, a conçu un rôle de cette nature qui est un rôle de go-between, de médiateur, de développeurs de communication et de collaboration, afin que toutes ces formes de plus en plus soutenues, de plus en plus vives, de plus en plus compressées dans le temps, puissent malgré tout s'exercer. Donc je conclurai par le fait que ce manager fonctionnel a trois grandes tâches dans ses tâches de coopération. Il aide les gens à communiquer, cela va sans dire, mais il aide aussi les gens à se coordonner, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Et enfin, s'il est vraiment le saint que l'on attendait, il aide les gens à résoudre collectivement des problèmes vite et bien. La résolution collective des problèmes étant la forme la plus accomplie de la coopération professionnelle. Donc, à travers tous ces traits et les quelques remarques teintées d'ironie que je vous ai soumises, je pense que, même dans son aspect fictionnel et avec toutes ces approximations, le rôle du manager fonctionnel est absolument indispensable et indissociable des formes contemporaines de l'activité professionnelle au sein des entreprises et même des institutions. Je vous remercie de votre attention.